Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Nous poursuivons donc notre série Quoi de neuf sur Napoléon avec l'historien Walter Bruyère-Ostels, professeur d'histoire à Sciences Po Aix. Bonjour. Vous enseignez à Sciences Po, mais vous êtes aussi directeur scientifique du service historique de la Défense et vous avez étudié la garde rapprochée de Napoléon, ces fameux maréchaux auquel vous avez consacré un livre qui vient de sortir aux éditions Perrin, Les Maréchaux d'Empire, les Paladins de Napoléon. Il existe en fait des biographies de l'un ou l'autre de ces personnages et vous, vous avez choisi d'en faire une sorte de portrait collectif. Pourquoi?
Parce que je crois que le véritable intérêt des maréchaux, c'est de comprendre à la fois l'usage militaire qui en est fait par Napoléon et pas de tel ou tel maréchaux, mais bien de leur ensemble. Et puis, c'est la même chose dans le champ social et politique, de comprendre comment ils ont été l'instrument d'une politique plus globale de Napoléon de recomposition des élites.
C'est un moment où la façon de faire la guerre se transforme. Quels sont les grands changements en cours et qu'ils vont devoir mettre en œuvre?
Les changements sont très très importants parce qu'on passe d'une guerre réglée et puis qui s'est très lentement transformée au cours du 18e avec une accélération très rapide au temps de la Révolution et de l'Empire, où on a à la fois des changements en termes d'organisation, la naissance du système divisionnaire et puis des corps d'armée. L'émergence d'un système logistique et puis surtout un changement qui est induit par les précédents, en fait, un changement de modalité de combat avec un retour à une guerre qui est une guerre de mouvement avec la recherche de la bataille décisive.
Et d'où viennent-ils ces hommes-là? Quel est leur profil? Ils semblent assez diversifiés en réalité.
Oui, c'est. Et d'où l'intérêt de les aborder de façon collective, parce que justement leur parcours montre finalement la recomposition opérée par la Révolution. On a des gens qui sont issus des classes moyennes ou parfois légèrement en dessous de la moyenne, si on prend un Murat ou un âne. Et puis, on a aussi des gens issus des élites, mais plutôt de la petite noblesse qui était bloquée par le système de rigidité sociale de la fin de l'Ancien Régime, qui lui aussi finalement bénéficie de la Révolution française.
Et quelle est la place que peuvent prendre ces personnalités par rapport à leurs soldats, à leurs officiers, quand le chef suprême est aussi charismatique et autoritaire d'une certaine façon? Est-ce qu'ils peuvent déployer une forme de génie personnel eux aussi?
Alors non, en tout cas pas dans le champ tactique ou stratégique. Alors sauf si évidemment ils ne sont pas intégrés à la Grande Armée, parce qu'on a certains moments où ils sont sur d'autres théâtres d'opération que Napoléon, typiquement le théâtre espagnol. Mais si on est sur le même champ de bataille, leur rôle c'est vraiment, parce qu'on est quand même sur des masses de milliers, de dizaines, voire de centaines de milliers d'hommes qui sont en mouvement pendant une bataille, le rôle, c'est de bien mettre en musique finalement ces masses d'hommes qui se déplacent et dont la bonne coordination est essentielle au plan d'ensemble qui, lui, est effectivement à la main de Napoléon.
Vous insistez sur le fait que ce ne sont pas que des militaires et vous étudiez ces hommes un peu sous différentes facettes. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler de ces autres aspects de leur vie, par exemple de leur vie de courtisan, de leur vie familiale?
Oui, alors je crois que c'est très important de ne pas laisser cet aspect-là de côté, parce qu'encore une fois, l'intérêt de la période napoléonienne, c'est qu'on est dans une période de sortie d'une période très trouble qui a été la Révolution française, où on recherche à nouveau une stabilité sociale. Et quand on regarde les parcours matrimoniaux des maréchaux, on voit très bien ce phénomène où on a à la fois des gens qui, pour partie, par leur mariage, vont rentrer dans le premier cercle de Napoléon. Prends l'exemple de Ney qui se marie avec une amie de Hortense. Et puis, on a un autre phénomène qui est celui de rechercher un équilibre entre les élites issues de l'Ancien Régime et celles issues de la Révolution. Et là, on peut penser au mariage, par exemple, de Oudinot avec Madame de Coucy, issue, elle, d'une vieille noblesse.
Et vous présentez 26 maréchaux. Est-ce que vous pourriez en choisir 3 parmi ceux-ci et nous les présenter ?
Oui, alors, mais si j'avais à énoncer des préférences, alors sans rentrer dans le détail de leur parcours évidemment, mais un Murat pour moi incarne particulièrement bien la période parce qu'il réunit finalement une sorte de flamboyance de l'épopée militaire que représente l'Empire. Il représente aussi assez bien quand même l'ascension sociale qui a été rendue possible par la Révolution, puisqu'il est fils d'aubergiste, même si ce n'est pas la seule activité de ses parents, mais bon, on voit à quelle catégorie sociale ça renvoie. J'ai aussi un grand attachement pour Davout, qui ne ressemble pas du tout à Murat, qui est un personnage très austère, très froid, d'ailleurs pas toujours apprécié de ses collègues, mais extrêmement rigoureux, et qui, lui, incarne bien, de mon point de vue, à la fois les chefs dont avait besoin Napoléon, et puis qui, par ailleurs, a représenté, fait partie de ceux qui ont été les plus fidèles à l'empereur jusqu'à la fin, dans un temps où les girouettes étaient relativement importantes. Et puis, s'il en fallait un troisième. Ouais, ça serait probablement l'âne, parce que c'est vraiment la figure un petit peu romantique par excellence, celui qu'on appelle le Roland de l'armée française, un de ceux qui meurt au combat, parce qu'il ne faut quand même pas gommer cet aspect-là, les guerres sont évidemment très, très meurtrières, et puis qui sert d'archétype du héros militaire à Napoléon, avec sa panthéonisation. Et puis, il y a un dernier élément, j'allais dire, qui peut rendre attachant le personnage de l'âne, un double, d'ailleurs, aspect. C'est un des rares à avoir émis, justement, des sentiments face à la mortalité sur le champ de bataille. Et puis, c'est un de ceux dont on voit très bien la vie personnelle, avec le très grand attachement que montre sa femme, justement, au moment du retour de son corps.
Eh bien, un grand merci, Walter Bruyère-Oostels. Je rappelle le titre de votre livre, Les maréchaux d'Empire, les paladins de Napoléon, et cela vient de paraître aux éditions Perrin. À bientôt.
À bientôt, merci.